Chapitre 16. Journal de ma mère. J'éprouve une sorte de répugnance à me reporter, même à pareille distance, à mes tristes jours d'isolement absolu, écoulés monotonement dans mon habitation des Highlands. Je puis trouver quelque intérêt à me rappeler les actions de ma vie, quelque insignifiantes qu'elles aient pu être. Elles m'associent jusqu'à un certain point au mouvement vigoureux du monde. Mais je ne ressens aucune sympathie pour le plaisir purement égoïste que paraissent trouver certains hommes à s'absorber, sous le poids de l'adversité, dans l'anatomie minutieuse de leurs propres sentiments. En ce qui me touche, le tableau de notre existence inactive dans le Perthshire vous sera donc présenté par ma mère et non par moi. Quelques extraits du journal qu'elle avait l'habitude d'écrire chaque jour vous diront tout ce qu'il vous importe de connaître avant que je reprenne mon récit à une époque plus avancée et dans d'autres lieux. 20 août. Nous sommes depuis 2 mois dans notre habitation d'Écosse et je n'aperçois aucune amélioration dans l'état de Georges. Il peut moins que jamais, je le crains, accepter sa séparation d'avec cette malheureuse femme. Rien ne pourra le décider à en convenir. Il affirme que la vie tranquille qu'il mène ici avec moi est tout ce qu'il désire. Mais je sais le contraire. Je suis entrée tard la nuit dans sa chambre et je l'ai entendu parler pendant son sommeil et j'ai aperçu des larmes au bord de ses cils. Mon pauvre enfant, que de milliers de femmes charmantes ne demanderaient pas mieux que d'être son épouse. Et la seule femme qu'il ne puisse épouser est la seule femme qu'il aime. 25 août. Longue conversation sur Georges avec M. Magloo. Je n'ai jamais pu souffrir ce docteur écossais depuis qu'il a encouragé mon fils à se rendre au fatal rendez-vous du Puy de Saint-Antoine. Mais il paraît être un habile médecin et je crois qu'il s'intéresse à sa manière à Georges. Il m'a donné son avis aussi brutalement que d'habitude et en même temps d'une façon très positive. Rien ne guérira votre fils, madame, de sa passion amoureuse pour sa dame à demi noyée que le changement de lieu et une autre dame. Faites-le voyager seul cette fois pour qu'il sente le besoin d'avoir près de lui une tendre créature. Et quand il aura rencontré cette tendre créature, il y en a autant que de poissons dans la mer, ne vous cassez pas la tête si elle a une fêlure dans le caractère. J'ai une tasse à thé fêlée qui me sert depuis 20 ans. Mariez-le, madame, à cette nouvelle venue avec le plus de hâte et d'impétuosité que le permettra la loi. Je déteste les opinions de M. Magloo tant elles me paraissent grossières et dures. Mais je crains bien d'être forcée, dans l'intérêt de mon fils, de me séparer de lui pendant quelque temps. 26 août. Où Georges pourrait-il bien aller? J'y ai pensé toute la nuit et je n'ai pu arriver à une conclusion. Il m'est si difficile de me faire à l'idée de le laisser partir seul. 29 août. J'ai toujours cru à la Providence et ma croyance vient d'être confirmée. J'ai reçu ce matin une lettre de notre excellent ami et voisin de Bellevue. Sir James est un des commissaires des phares du Nord. Il va partir sur un navire de l'État pour inspecter les phares du Nord de l'Écosse et des îles Orkney-Shetland. Et comme il a remarqué la physionomie fatiguée et souffrante de mon pauvre garçon, il invite très gracieusement Georges à l'accompagner dans son voyage. Ils ne seront pas absents plus de 2 mois, et comme me le rappelle Sir James, la mère a agi merveilleusement sur la santé de Georges lors de son retour de l'Inde. Je ne pouvais désirer une meilleure occasion d'essayer l'effet que pourra avoir sur lui le changement d'air et de lieu. Quelque pénible que soit pour moi cette séparation, je l'envisagerai avec sérénité et j'engagerai Georges à accepter cette invitation. 30 août. Je lui ai dit tout ce que j'ai pu, mais il refuse de me quitter. Je suis une misérable égoïste, car je me suis sentie bien heureuse lorsqu'il m'a répondu négativement. 31 août. Encore une nuit sans sommeil. Il faut que Georges envoie positivement aujourd'hui sa réponse à Sir James. Je suis résolue à remplir mon devoir vis-à-vis de mon fils. Il a l'air si terriblement pâle et malade ce matin. En outre, si l'on ne fait rien pour le stimuler, sais-je s'il ne finira pas par retourner auprès de Madame Van Brandt? À tous les points de vue, je dois insister pour qu'il accepte l'invitation de Sir James. Je n'ai qu'à montrer de la fermeté et la chose se fera. Il ne m'a jamais désobéi, le pauvre garçon. Il ne commencera pas aujourd'hui. 2 septembre. Il est parti, seulement pour me plaire et contrairement à son propre désir. Oh, comment se fait-il qu'un aussi bon fils ne puisse trouver une bonne épouse ? Il rendrait heureuse n'importe quelle femme. Je me demande si j'ai eu raison de le faire partir. Le vent gémit dans la plantation de sapins derrière la maison. Y aurait-il une tempête sur mer ? J'ai oublié de demander à Sir James quelle était la grandeur de son navire. Le guide en Écosse prétend que la côte est rude et la mer difficile entre la côte nord et les îles Orkney. Je regrette presque d'avoir insisté aussi vivement. Mais je suis folle, nous sommes tous dans les mains de Dieu. Qu'il bénisse et rende heureux mon excellent fils. 10 septembre. Très inquiète, pas de lettre de Georges. Ah, que cette vie est pleine de chagrin et qu'il est étrange que nous y tenions tant. 15 septembre. Une lettre de Georges. Ils ont quitté la côte nord et traversé la haute mer pour les Orkneys. Ils ont été jusqu'ici favorisés par un temps merveilleux et Georges est en meilleure santé et disposition d'esprit. Ah, que de bonheur il y a dans cette vie lorsque nous avons la patience de l'attendre. 2 octobre. Une nouvelle lettre. Ils sont arrivés sains et saufs à Lerwick, port principal des îles Shetland. Le temps n'a nullement été favorable dans ces derniers jours, mais l'amélioration de la santé de Georges continue. Il me parle avec reconnaissance de la bonté constante de Sir James. Je suis si heureuse que je déclare que je voudrais embrasser Sir James, tout grand homme et commissaire des phares du Nord qu'il soit. Dans 3 semaines au plus tard, si le vent et le temps le permettent, ils espèrent revenir. Qu'importe ma vie solitaire ici, si je peux revoir Georges, heureux et bien portant. Il me dit avoir passé à terre une grande partie de son temps, mais il ne parle pas d'avoir rencontré de dames. Peut-être sont-elles rares dans ces régions sauvages. J'ai entendu parler de châles et de poneys de Shetland, mais je me demande s'il existe des dames shetlandaises.